Voyage Cast, épisode 18, la Chine. Mais t'es qui toi? Un Mogwai? Mais c'est Gizmo? Mais tu fais quoi dans mon podcast? Mais ça a rien à voir avec la Chine.
Un Mogwai? Je ne sais pas, c'est un mot chinois.
Ah bah oui, maintenant, ça me revient. Tu viens de Chinatown. Bon bah écoute, tu peux rester dans le podcast alors, ça va t'intéresser, mais tu sais, au début du podcast, on a toujours une musique. On se fait un petit truc ensemble, Gizmo? Qu'est-ce que t'en penses? Trop chou, Gizmo, c'est mignon. Bon, qu'est-ce que tu penses? On lance le podcast gentiment?
Génial!
Bon, alors, si Gizmo trouve ça génial, on va y aller. Dans ce podcast sur la Chine, c'est Aurélie que j'ai eu le plaisir d'accueillir. Elle a résidé pendant plus de 2 ans en Chine et est donc tout à fait capable de nous enseigner un peu comment fonctionne ce pays et ce qu'il y a à voir. En bref, Pékin, Shanghai, les montagnes jaunes, le fleuve Li, l'armée de terre cuite... On a parlé de beaucoup de choses, on a essayé de faire un podcast vraiment complet sur la Chine. Vous saurez presque tout ce qu'il y a à savoir sur la Chine, et le reste, eh bien, vous l'apprendrez facilement dans le blog d'Aurélie. Mais tout de suite, l'interview. Enfin, si t'es d'accord.
Génial !
Ok, alors, on y va.
C'est vous qui m'avez tiré dans le cou ? Avec ce bouchon de dentifrice ?
Eau chaude marche. Pousse au bouton. Attends demi-heure, tu douches. Après, pousse à l'envers.
Pourquoi on laisse pas allumer?
Laissez allumer en Amérique?
On n'a pas d'interrupteur en Amérique.
Mettez interrupteur. Sauvez planète. Il est arrivé quoi à l'œil?
Je suis rentré dans un poteau.
Force, poteau.
Salut Aurélie, bienvenue sur Voyage Cast.
Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde.
Alors, comment ça va à Toulouse, si j'ai bien compris?
Alors, à Toulouse, je ne sais pas, puisque là, je suis à Paris actuellement, mais ça doit aller à Toulouse aussi.
C'est incroyable, parce que je me trompe toujours entre l'endroit où les gens sont, l'endroit où les gens voyagent et l'endroit où les gens travaillent. C'est incroyable. Mais ça fait rien, c'est l'habitude sur VoyageCast.
Non, mais il n'y a aucun souci. Non, mais à Paris, tout va bien, pas de problème. Il fait un peu frais, mais pas trop, pour un mois de janvier. Et 2013 commence bien, donc tout va bien.
Génial. Alors Aurélie, tu vas nous parler aujourd'hui d'un pays qu'on a encore une fois, pas tellement l'habitude de voyager en tant que touriste, c'est la Chine.
Ouais, tout à fait, la Chine.
Alors, la Chine, ça paraît étrange. Est-ce que tu avais un amour de la Chine avant d'y aller? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Chine?
Alors non, j'avais une petite curiosité au départ. Quand j'étais en classe de 4e, j'avais envie d'apprendre le chinois, puis ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Et finalement, c'est revenu dans ma vie parce qu'on m'a proposé de travailler pour une association qui faisait des échanges culturels avec la Chine. Donc ça, c'était au tout début de quand je travaillais. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, mais à la condition que je me renseigne un peu sur le pays et que j'y fasse un tour. Donc ça a commencé comme ça, par hasard, je dirais, par le hasard d'une rencontre.
Et alors, première rencontre avec la Chine, ça fait il y a combien de temps?
Ouh là là, c'était en avril 2005, donc ça remonte. Hein.
Alors, tu grimpes dans l'avion, où est-ce que tu as atterri? À Shanghai peut-être?
Non, la première fois, donc là, quand je suis partie en tant que voyageuse, c'était à Pékin, donc dans la capitale politique. Et donc j'atterris à l'aéroport de Pékin, je devais retrouver des gens sur place, des Français, mais j'ai atterri toute seule, puisque j'étais la seule de cet avion-là. Et ouais, t'arrives, ça surprend. Il y a beaucoup de Chinois à l'aéroport, hein, c'est normal, mais c'est vrai que ça fait bizarre de te retrouver la seule blanche au milieu de tous ces gens qui te regardent avec leurs petits yeux bridés. Voilà la première impression.
La ville, ça ressemble à quoi Pékin? C'est une grande mégapole comme New York, d'autres mégapoles qu'il y a autour du monde?
Alors, j'ai pas été à New York, mais de ce que je peux comparer, c'est assez différent parce qu'en fait, il y a un côté des très très grandes artères en fait. T'as l'impression d'avoir des autoroutes en plein milieu de la ville, donc tu peux avoir une deux fois trois ou quatre voies en plein centre en fait de Pékin. Et donc t'as ça d'un côté et de l'autre, tu peux prendre une petite ruelle traditionnelle qu'on appelle les routons. Et là, t'auras le papy qui joue aux échecs avec son copain, avec sa petite barbichette. Et un côté beaucoup plus Chine des cartes postales comme on imagine, quoi. Donc t'as vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire un côté très très moderne, plus moderne qu'en Europe, et un côté plus traditionnel comme on imagine la Chine d'antan.
D'accord, t'as aussi ça au niveau des maisons, des marchés qui restent comme à l'ancienne?
Malheureusement, pas autant qu'on le voudrait. Parce que moi, quand j'étais en Chine, donc la première fois, c'était avant les JO de Pékin, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques en 2008. Et donc le premier voyage, c'était en 2005. Et malheureusement, dès 2005 et même un petit peu avant, je pense aussi, ils ont détruit une partie du Pékin ancien pour faire un toilettage de la ville, si on peut dire, pour qu'elle soit au plus haut de sa forme pour les JO. Et dans les faits, ça a fait qu'ils ont détruit des quartiers anciens, mais vraiment presque par dizaines de quartiers anciens, pour à la place mettre des buildings modernes, si on peut dire. Et du coup, tout ce qui est ruelles, marchés, etc., il en reste, mais ça a été beaucoup, beaucoup détruit. Donc, quand on va à Pékin aujourd'hui, on peut s'attendre justement à la Chine traditionnelle de tous les côtés, mais finalement, elle existe encore, mais dans les petits coins et recoins, quoi, si je veux dire. Et donc, en effet, tu peux trouver des marchés, soit des marchés de fruits, légumes, etc., soit des marchés un petit peu d'antiquité. Mais il n'y en a pas partout, il faut vraiment les chercher, si je peux dire, dans l'océan de modernité qu'est plutôt Pékin aujourd'hui.
Du coup, est-ce que tu conseillerais Pékin pour voyager
Ah bah oui, quand même, parce que Pékin, c'est aussi la cité interdite. Donc, comme son nom l'indique, une cité qui a été interdite pendant des centaines d'années aux premiers venus, qui était juste réservée aux empereurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est en plein centre de Pékin. Dieu merci, ça n'a pas été détruit. Et ça vaut le coup de voir juste pour mesurer l'ampleur de l'Empire chinois et de ce que ça a pu être pendant plusieurs millénaires, même si la cité interdite doit avoir seulement plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est une des choses à voir. Il y a surtout la Grande Muraille de Chine, qui est près de Pékin et un peu plus loin, mais le morceau qui sont près de Pékin, ce sont les plus faciles d'accès. Et ça, c'est vraiment dommage d'aller en Chine sans le voir. C'est pareil, ne serait-ce que pour réaliser l'ampleur de la Chine ancestrale, puisque la muraille de Chine, elle a commencé à être construite en 200 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, pour stopper l'arrivée des Mongols. Même si celle qu'on voit aujourd'hui, elle a été construite, reconstruite plus tard, c'est quand même quelque chose de vraiment incontournable, si je peux dire. Et donc, ça vaut quand même le coup d'aller à Pékin, puis aussi pour essayer de trouver, malgré tout, ces petits morceaux de vie traditionnelle qui subsistent entre les grands bâtiments modernes. Vraiment, ça vaut le coup de se faire son propre avis. Puis la dernière chose pour laquelle ça vaut vraiment le coup d'aller à Pékin, c'est pour la nourriture. Parce que y a des spécialités pékinoises, notamment les raviolis, les petits pains à la vapeur qui sont délicieux. Et rien que pour ça, je crois que ça vaut le coup d'y aller.
T'y resterais combien de jours à peu près pour faire le tour, entre guillemets, si on veut, parce que c'est immense?
Alors ça dépend dans quelle optique tu pars en Chine. On va dire que si tu as le temps, je conseillerais... pour voir Pékin et les proches environs comme la cité interdite, une bonne semaine. Une bonne semaine. Après, si tu fais un voyage où tu veux découvrir la Chine en peu de temps sur une période de congé, donc on dira sur 3 semaines, dans ces cas-là, passer 4-5 jours à Pékin, ça peut suffire. Mais une bonne semaine, c'est quand même mieux.
Alors, après avoir fait le tour de Pékin, où est-ce que tu irais ensuite? Justement, dans une optique de voyage pas forcément énormément long, plusieurs mois, parce que ça va concerner quelques personnes qui, de toute façon, vont avoir le temps de flâner, mais pour des gens qui ont 3-4 semaines, on va dire.
Incontournable, il y aurait Shanghai, bien sûr, et puis Xi'an, l'ancienne capitale. Je pense qu'il y aurait au moins Shanghai et Xi'an en plus. Et en dernier lieu, je dirais une campagne, en fait. Donc là, il y en a plein de différentes, mais une petite campagne reculée, pour réaliser que la Chine, c'est pas seulement les grandes villes. Ça serait un peu le programme que je ferais en 3 ou 4 semaines.
Alors, on va peut-être détailler un peu. Shanghai, ça ressemble à quoi, en fait? Est-ce que ça ressemble à Pékin? Parce que tu nous as dit que c'était deux villes grandes, quoi, des mégapoles.
Alors, Shanghai, c'est encore plus moderne que Pékin. En fait, il n'y a pas ce côté des aussi grandes autoroutes, si on peut dire, en pleine ville qu'à Pékin, à Shanghai. Il y en a un peu moins, mais par contre, il y a des bâtiments qui sont encore plus hauts. Et il y a notamment un quartier qui est le quartier des affaires où il y a vraiment les tours les plus hautes du monde qui sont construites ou qui sont en train d'être construites actuellement. Et du coup, Shanghai, c'est vraiment la ville du futur, en fait. Autant Pékin, il y a encore le côté capitale politique, capitale culturelle, capitale historique. Shanghai, c'est vraiment la capitale du futur. Ouais, c'est comme ça que je la définirais. Donc, tu as des bâtiments encore plus neufs que tu peux les avoir dans les... même qu'à New York, j'imagine, puisque à New York, je pense qu'ils construisent un peu moins que là-bas. Et il y a vraiment un côté énergique qui est presque palpable. C'est-à-dire que pour moi, bon, peut-être qu'on va me prendre pour une tarée quand je dis ça, mais quand je vais à Shanghai, j'ai presque l'impression de sentir l'énergie de la ville autour de moi, mais de la sentir physiquement. Et il y a un côté où tout est possible, en fait, dans cette ville. C'est-à-dire, tu as un carrefour et un quartier que tu as vu la veille, bah, s'il faut, il sera en train d'être reconstruit et le lendemain, il n'y sera plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose... la ville vit, mais vraiment. Donc ça, c'est génial. Et puis, comme à Pékin, quand même, il y a aussi des petits îlots de tradition qui... continue à exister. Et en fait, tu peux aussi tomber sur le petit vieux qui joue pareil aux échecs ou qui fait son tai chi. Tu pourras trouver malheureusement des pauvres gens qui trient encore les poubelles à la main, donc qui tireront leur carriole avec plein de cartons dessus. Enfin, tu vois, tu as vraiment les deux côtés, c'est-à-dire la Chine encore plus moderne que n'importe où ailleurs en Chine ou dans le monde, et la Chine un petit peu traditionnelle qui subsiste malgré tout. Donc voilà, ça c'est Shanghai pour te donner un peu une photo. Après, il y a un autre aspect de Shanghai qui est très sympathique, c'est que c'est une ville qui a été physiquement marquée par les concessions étrangères, puisqu'au début, enfin, à la fin du 19e et au début du 20e, il y avait des puissances, notamment européennes, qui occupaient Shanghai. Et donc, tu as des quartiers européens et notamment un quartier français. Donc, en fait, dans Shanghai, en plein centre-ville, tu as un quartier où il y a plein de platanes à la française, quoi, au bord des routes, et où il y a des belles maisons coloniales, comme on peut imaginer les maisons coloniales d'Amérique latine, un petit peu les clichés qu'on a en tête. Et du coup, il y a ce côté aussi à Shanghai post-colonial, si je peux dire, on appelle ça le quartier de l'ancienne concession, qui est très sympathique. Et là, pour le coup, on sort vraiment des hauts buildings de 50 étages et on revient à des dimensions un peu plus humaines. Donc, c'est très sympathique de flâner, de se balader à pied ou en scooter ou en vélo. Voilà, Shanghai, un petit peu. Ça te donne une idée, ça va ?
Ça a l'air intéressant. Moi, une question que je me suis posée en lisant ton blog, c'est est-ce que tu as des musées en Chine ? Parce que, alors, je ne sais pas si c'est parce que tu n'aimes pas en voir ou si c'est parce qu'il n'y en a pas, parce que tu n'en parles pas vraiment.
Alors, c'est vrai que pas les musées qui m'ont le plus fasciné en Chine, simplement parce que j'aime bien les musées, mais je préfère la vie d'aujourd'hui, la vie qui vit en fait. Mais à Shanghai, il y a un très bon musée qui s'appelle le musée de Shanghai, tout simplement, et où tu peux retrouver tout ce qui est porcelaine, calligraphie, enfin, il y a vraiment même bronze qui ont peut-être 3 millénaires, enfin, des choses assez, même carrément anciennes. Donc ça existe, mais il n'y en a pas forcément qui m'ont marqué plus que ça à Shanghai. Par contre, à Pékin, il y a un truc qui est très sympathique si tu es intéressé par l'art. C'est un quartier des galeries contemporaines, en fait. C'est-à-dire, il y a tout un quartier qui est un ancien quartier industriel, Dashanze ou 798. Et dans ce quartier-là, c'est des anciennes usines qui ont été réinvesties en galeries d'art. Et donc, tu as plein de galeries d'art contemporain et tu te balades au milieu des grosses tuyauteries en fer et tu tombes sur des petites galeries. Donc, au départ, c'était très alternatif et underground. Et aujourd'hui, ça a été, c'est plus, plus grand public, mais ça vaut le coup de se balader là-bas pour un week-end. Donc à Pékin, je dirais, si tu cherches l'art, c'est là où je t'emmènerai voir. Et ensuite à Shanghai, sans doute le musée de Shanghai. Mais après, même si ce n'est pas des musées que j'ai visités quand j'étais en Chine, il y a beaucoup de temples, beaucoup de beaux bâtiments à voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans le musée comme on l'entend à l'européenne.
Ouais, voilà, c'était ça la question, style un British Museum, tu vois, ou un Louvre, tu vois, il n'y a pas vraiment, quoi.
Non, mais alors là, attention, je vais être un peu provocatrice. Vu que justement, tout a été raflé par les Européens et se trouve dans le Louvre et au British Museum, bah, il n'y a plus de collection pour les laisser dans les pays d'origine, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de choses sur place, quoi. Mais là, je suis un peu provocatrice.
Ouais, ceci dit, c'est pas tout faux, hein. Heureusement qu'on a rendu quelque chose de temps en temps, hein. Je crois que c'est le British Museum qui avait la plus grande collection égyptienne. À quelque part, tu te dis qu'il y a un petit problème quelque part. Mais bon, on s'en fiche. On parle de la Chine maintenant. Mais ok, alors donc tu dirais quand même Shanghai, une ville intéressante, à passer quelques jours aussi, une petite semaine?
Ouais, vraiment, parce que même si ça te plaît pas, ça vaut le coup d'être vu pour sentir cette énergie ou pour comprendre ce que c'est la Chine de demain, tout simplement. Pour voir ces Chinois très riches et ces Chinois très pauvres, enfin, vraiment les différences de classe et toute la palette de la Chine que tu peux avoir. Donc, au minimum, je pense qu'il faut y aller 3 jours, parce qu'il y a peut-être moins de choses emblématiques qu'à voir comme à Pékin, mais 3 jours, je pense, pour sentir la ville, c'est bien. Et puis, il y a quand même aussi pour les clubbeurs et les gens qui aiment sortir, quoi faire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des super beaux bars, avec des très très belles vues sur la ville, etc., des trucs très modernes qui valent le coup d'être vus. Donc, je pense 3 jours, c'est pas mal.
Alors, moi, je te confie un truc entre nous. Les villes, c'est pas vraiment ce qui me branche. Moi, j'aime plus la campagne, les trucs un peu tranquilles. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça en Chine aussi, ou bien il faut vraiment voyager de mégapole en mégapole?
Ah non, bah la Chine c'est grand, hein. Attention, c'est aussi grand que l'Europe. Alors,
oui, mais je dois faire semblant de pas savoir, parce que sinon je peux pas te poser de questions.
Alors, je rebondis quand même. C'est comme si tu imaginais un pays à la taille de l'Europe, donc c'est très grand. Et évidemment, il y a plein de campagnes et d'endroits naturels à visiter. Mais il y a quand même un petit bémol. C'est que les endroits qui sont faciles d'accès et qui ne sont pas très loin des grandes villes, donc par exemple que tu pourras atteindre, je ne sais pas moi, en 4 heures de train ou quelque chose comme ça. Facile d'accès, hein, tout est bien sûr proportionnel à la distance et à la taille de la Chine. Donc les endroits de ce type, il y aura beaucoup de monde, parce qu'en fait, bah, les Chinois sont très nombreux, hein, ça je ne te l'apprends pas. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui voyage dans les endroits naturels à proximité des grandes villes. Et donc, enfin, je vais te donner un exemple concrètement. Près de Shanghai, il y a un endroit qui s'appelle les Montagnes Jaunes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler.
Moi, j'ai noté une autre montagne. Je ne sais pas si c'est la Montagne Jaune. Mais, moi, mais toi, tu sais le chinois, donc c'est un peu la honte de dire ça.
Essaye.
Wutaishan.
Le Wutaishan, non, ça, c'en est une autre. Bon, bah, je vais te parler d'accord. De celle que j'avais en tête, la Montagne Jaune, en fait. C'est la montagne qu'on voit un petit peu sur les estampes très classiques, avec plein de brume autour et comme des monts en pain de sucre, en fait. Ce genre de paysage-là. Il y a une montagne qui s'appelle les Montagnes Jaunes, qui est une montagne sacrée à proximité de Shanghai. Je crois que c'est à l'époque, on pouvait y aller en 7 ou 8 heures de train. Maintenant, je pense que c'est un peu plus proche. Et moi, j'avais trop envie d'y aller parce que j'avais vu plein de peintures où j'imaginais justement pouvoir faire un petit peu de méditation sur ma montagne face à la mer de nuages, etc. Sauf que quand j'ai été sur place, c'était un grand parc naturel payant, donc avec un droit d'entrée à l'entrée. Et plein de Chinois avec leur haut-parleur en groupe de 50 personnes qui montaient la montagne au pas de course. Et du coup, nous, on imagine notre conception, la campagne hyper tranquille, et tu peux parfois tomber sur des parcs, en fait, vraiment aménagés. Donc ça, c'était juste pour dire, attention, il y a campagne et campagne, mais il y a aussi des endroits plus reculés qui sont peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, mais qui sont quand même accessibles malgré tout, et qui valent vraiment le coup. Et donc, j'imagine que tu veux un exemple, genre quel endroit, oui. quel endroit on peut aller. Alors, je vais t'en donner deux qui sont plutôt dans le sud. Il y en a un, c'est la région du Fujian. Donc, c'est situé pile entre Shanghai et Canton, donc à cet endroit-là. Et ça s'appelle le Fujian, en fait. Et comme je te disais, ça s'écrit F-U-J-I-A-N. Et en fait, à proximité de la mer, donc dans cette région-là, tu as des villages faits de toulots. Et les toulots, ce sont des grandes maisons rondes où les gens vivent en communauté. Donc, tu as des grandes maisons où les gens peuvent vivre à 120 personnes. Et donc, tu as des villages faits avec quelques grosses maisons rondes comme ça. Et tu te retrouves au cœur de ces villages, au milieu de montagnes avec des rizières en terrasse. Et tu es dans le sud du pays, donc il fait plutôt bon. Et tu n'as vraiment pas l'impression d'être dans le même pays que là où tu as, enfin, que là où il y a Shanghai ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une campagne assez atypique. Donc, c'est la région des Tou, donc dans le Fujian. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc ça, c'était un exemple. Et en fait, les gens qui vivent là s'appellent les Hakka, donc c'est une ethnie. Ils ont vraiment des modes de vie différents que les Chinois traditionnels. Ils ont une langue à part et des mœurs qui sont différentes. Donc ça c'est un exemple.
Ouais, je vois les photos là, c'est vrai que c'est étonnant. Hein.
Ouais.
Je trouve dingue parce que comme ça, ça paraît presque moderne en fait.
Et pourtant, il y en a qui ont 400 ans, quoi, et qui tiennent encore debout, qui ont été construits à l'époque. En fait, pour la petite histoire de ces constructions, donc ces grosses maisons rondes, elles ont été construites par des peuples qui ont bougé depuis le sud, je crois, jusqu'à là, qui ont été chassés, en fait. Et du coup, c'était des maisons défensives qui étaient centrées vers l'intérieur. Et vers l'extérieur, il y a très peu de fenêtres pour qu'en fait, ils puissent vivre en autarcie et se défendre s'il y a un problème, quoi. Donc, c'est très, très ingénieux et assez hallucinant. Et en fait, quand tu vas dans cette région-là, tu as des coins qui sont assez touristiques, voire même des toulots qui sont payants, donc des maisons qui sont payantes. Et si tu te balades un peu plus loin, tu te retrouves en pleine campagne où il n'y a vraiment personne et pas un touriste qui passe. Et tu as des toulots qui sont peut-être abandonnés, d'autres qui ne le sont pas. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu, quoi. C'est très, très atypique et on ne pense pas forcément à ça quand on pense à la Chine. Donc, c'est bien de sortir un peu des sentiers battus, quoi.
Ouais, effectivement. Moi, en tout cas, si j'allais en Chine, j'aimerais bien voir ça, parce que c'est vraiment beau, ouais. Et là, tu disais, c'est assez facile à y aller, du coup, relativement. Enfin, qu'est-ce que t'appelles difficile d'aller, en fait?
Alors, celui-là, pour te donner une idée, il faudra aller à Xiamen, qui est la ville à proximité, qui se situe à peu près à 1h30 d'avion de Shanghai. Donc, tu prendras ton avion depuis Shanghai jusqu'à Xiamen. C'est pas forcément cher, hein, l'avion en Chine, puisque les distances sont très grandes, donc il y a beaucoup d'avions qui traversent le pays. Et ensuite, de Xiamen, soit tu prendras 2 ou 3 bus, donc là, c'est un peu plus compliqué, soit tu prendras un taxi que tu auras préparé à l'avance et qui viendra te chercher et qui ensuite te fera la balade, un taxi-chauffeur, en fait. Moi, c'est ce que j'avais fait, puisque j'étais justement avec mes parents. Et donc, on avait fait le mode un petit peu luxe et on avait organisé un chauffeur pendant 3 jours qui nous avait servi aussi de guide. Et c'était plutôt sympathique. Mais autrement, si tu veux le faire par tes propres moyens, je pense que, ouais, avec 2 bus, tu peux te retrouver en pleine campagne. Donc, un avion plus 2 bus.
Est-ce que tu sais si le trek, ça se fait en Chine aussi, style d'aller dans ces régions-là, mais à pied?
En fait, je l'ai fait une fois. Alors, c'était dans une autre région. Bah, allons là-bas alors, parce que je vais te donner plusieurs exemples de campagne. Là, c'était dans le Gansu. Donc, c'est une région dans le far ouest chinois. Donc, vraiment à l'ouest, dans les terres. Le Gansu, ça s'écrit G-A-N-S-U. Et c'est une région très étirée, en fait. Quand tu vas d'un côté de la région, c'est un monde musulman. Quand tu vas de l'autre côté de la région, c'est le monde tibétain. Donc, c'est assez, assez curieux. Et en fait, j'ai atterri là-bas avec un ami qui voulait nous faire faire un trek, justement. Et donc, on est arrivé à Siare, qui est une ville de moines tibétains. En fait, c'est la plus grande lamasserie tibétaine dans la, dans la Chine hors Tibet, si on peut dire. Et à partir de là, on a décidé de faire une rando à pied. Et donc, on est passé sur les montagnes autour. Et je crois qu'on s'est fait 40 km comme ça en deux jours. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres personnes, mais qui était quand même pas mal à 4000 ou 3000 mètres d'altitude. Et là, bah, tu peux partir en effet avec ton sac à dos, ta tente, etc. Mais le problème que tu rencontreras, c'est qu'il n'y a pas forcément d'itinéraire fait pour ça. C'est-à-dire que si... si tu veux plutôt suivre un itinéraire, enfin, tu n'auras pas une carte comme en France avec le GR20, etc. Il faudra que tu regardes toi-même sur des cartes chinoises et que tu traces ton itinéraire ou que tu le fasses au hasard, comme on avait fait. Mais vu que la Chine est quand même assez peuplée, tu rencontres souvent soit des bergers, soit des villages. Enfin, tu te retrouves rarement seul en Chine. Il y a souvent toujours quelqu'un pour t'aider.
Est-ce qu'il y a des guides ou des agences qui font ça aussi ou bien ce n'est pas du tout développé?
Le trekking pur, alors je pourrais pas te dire parce que moi je suis jamais passée par des agences, des guides. Souvent, il faut quand même aller dans la ville d'à côté et ils te font faire un trek pour une journée. Des treks de plusieurs jours, dans ma connaissance, c'est moins développé que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Mais ça doit exister parce que là... Enfin, s'il y a peut-être une région où ça se fait dans le Hunan, je ne sais pas si tu connais, c'est une région dans le sud-ouest de la Chine qui est justement limitrophe avec le nord du Vietnam. Et en fait, dans cette région-là, c'est une région très, très montagneuse. Et il y a beaucoup de touristes français qui vont là-bas parce que justement, je pense que tu peux faire, te caler dans un village et faire des balades à pied autour dans les montagnes qui sont pareilles à 4000 mètres d'altitude, qui sont assez, assez élevées. Donc là, c'est peut-être possible de faire du trek, si tu es intéressé, dans le sud-ouest de la Chine.
Mais pourquoi pas? Tu as parlé du Tibet juste avant. Alors, c'est une région de Chine aussi. Est-ce que c'est intéressant d'y aller? Je pense que oui, quand même.
Alors, là, c'est pareil, c'est une région de Chine. Attention, attention à qui tu parles en disant ça.
Oui, bon, enfin, on va dire, comment dire, politiquement, voilà.
Alors, en fait, moi, je n'ai pas été au Tibet, pas au Tibet où on l'entend en Europe, c'est-à-dire le Tibet géographique, simplement parce que si tu vas au Tibet aujourd'hui, et notamment à Lhasa, tu risques d'être surpris parce qu'il y a beaucoup de Chinois, en fait, qui vont là-bas. Et alors, comment le dire pas facile de rester politiquement correct. Mais en gros, pour les...
Je ne pense pas que je me fais écouter par le gouvernement de Chine, donc on peut y aller.
Pour les Chinois, le Tibet, c'est clairement la Chine. De la même manière que toi, tu penses que la Corse, ben, c'est la France. Ben, pour eux, le Tibet, c'est la Chine. C'est vraiment la comparaison.
Sur les Corses, on ne dit rien parce qu'ils sont quand même vachement plus près.
Donc, on considère a priori tous que la Corse fait partie de la France. C'est comme ça qu'on l'a appris. Ben, pour eux, c'est vraiment la comparaison vaut. Et donc, le Tibet fait partie de la Chine. Et donc, le moyen qu'a trouvé le gouvernement chinois pour intégrer le Tibet à la Chine récemment, c'est d'envoyer des colons chinois. Et donc, en fait, tu as plein de Chinois qui sont envoyés dans les villes tibétaines pour peupler, culturer, si on peut dire, ou acculturer le Tibet. Et donc, si tu vas à Lhasa, qui est pourtant la capitale tibétaine par excellence, tu croiseras beaucoup de Chinois. Et dans les endroits faciles d'accès, donc un petit peu touristiques, autour de Lhasa ou au Tibet, bah, tu auras aussi pas mal de Chinois. Donc pour cette raison, et surtout parce qu'il fallait un permis spécial, et il fallait à une époque être accompagné particulièrement, etc., pour aller au Tibet, moi j'y ai pas été. Mais par contre, pour les personnes qui seraient intéressées par la culture tibétaine, il y a une autre alternative qui est d'aller dans le Tibet culturel, mais qui fait partie de la Chine dans les frontières chinoises, si on peut dire. Donc, tu vas de l'autre côté de la frontière tibétaine, mais pas du côté tibétain, mais du côté chinois. Et là, il y a des nomades tibétains qui vivent, en fait. Et moi, j'ai été dans une région du Sichuan qui s'appelle le Kham. Donc, ça s'écrit K-H-A-M. Je précise à chaque fois parce que c'est tellement compliqué comme nom que c'est pas toujours évident de
se retrouver. Oui, t'as raison.
Donc, j'ai été dans le Kham tibétain. En fait, c'est une région dans le sud-ouest de la Chine où j'ai eu la chance de passer une nuit sous une tente avec des Tibétains, perdus au milieu d'une montagne, dans la pampa tibétaine, quoi. Et ça, c'était en Chine. Donc, j'ai pas eu besoin de passeport particulier. J'ai passé aucune frontière administrative. Mais culturellement, j'étais au Tibet. Donc, en fait, on peut voyager dans le monde tibétain, si je peux dire, à l'intérieur des frontières chinoises. Et ça vaut vraiment le coup parce que là encore, c'est pas du tout les Chinois de Pékin ou de Shanghai, mais c'est encore un peuple à part. Et pour les personnes qui sont intéressées soit par la culture tibétaine ou par la culture bouddhiste, ça peut vraiment, vraiment, vraiment valoir le coup. Et sur cette région-là, il y a vraiment un truc extraordinaire à faire pour les voyageurs qui auraient envie de tenter l'aventure, c'est des festivals autour du cheval. Et en fait, celui où j'ai été, c'était à proximité de Tagong, donc T-A-G-O-N-G. Ça, c'est une ville dans le Kham tibétain, donc dans la région du Sichuan. Et à proximité de Tagong, à peu près 2 heures de route et 4 heures de marche, en été, se tient un festival autour du cheval. Et en fait, j'ai dormi une nuit seulement sur place, donc avec des nomades tibétains. Et j'ai assisté à une journée entière de festivités. Et là, mais c'est une des choses les plus dépaysantes que j'ai pu faire de ma vie. Tu te retrouves assise au milieu de, je ne sais pas, une centaine de Tibétains. C'est donc des tribus nomades qui se retrouvent pour ce festival tous les ans, qui a lieu 2 ou 3 jours par an. Et en fait, ils font, par exemple, des courses avec des chevaux. Ils font des espèces de, je ne sais pas comment ça s'appelle, une compétition où tu dois ramasser le plus de galets posés par terre quand tu es sur ton cheval. Ou alors une démonstration, en fait, tu as des cavaliers qui sont debout sur leurs chevaux, ou sur leur cheval, ça dépend si c'est un ou plusieurs, ils ont des super beaux habits en soie, et ils font des espèces de démonstrations magnifiques du haut de leur cheval. Et là, tu es à 4000 mètres d'altitude, sous un soleil qui crame, et t'hallucines vraiment de voir ça sous tes yeux, et de te dire que ça n'a pas du tout été ni atteint par la colonisation chinoise, ni atteint par la culture ou la colonisation occidentale, si on peut dire. Et c'est vraiment... vraiment un autre monde, très coloré, très gai. Pour te donner une idée, ils ne parlent même pas mandarin, qui est la langue parlée par tous les Chinois, a priori de Chine. Et moi, quand j'étais là-bas, j'étais avec une amie, on était deux. Elle parlait très bien mandarin. Moi, c'était au tout début où je partais en Chine, donc je ne parlais pas très bien. Et en fait, on parlait seulement chinois, donc mandarin, avec la fille des nomades qui, elle, vivait à la ville et qui parlait mandarin. Mais autrement, ses parents, les gens autour, personne ne parlait mandarin. Ils parlaient tous leur dialecte tibétain. Et ça, c'est des choses que tu peux faire en Chine, tu vois, qui sont, pour le coup, hors des sentiers battus, c'est rien de le dire, mais qui sont vraiment dignes de notre monde et pourtant faciles d'accès, parce qu'aller en Chine, c'est pas très très compliqué, et aller là-bas avec un peu de bonne volonté, c'est possible, quoi.
Ouais, j'avais vu les photos, justement, sur ton site, et ce que tu dis, les prairies de Tagong, là, ouais, moi, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est des grandes étendues, ça donne envie, quoi. Et alors, passer une nuit dans une... ça s'appelle une yourte? Ou bien pas, parce que yourte, c'est plutôt mongol, hein, sauf erreur.
Ouais, c'est une tente, en fait. D'accord. Je sais pas quel est le terme. Moi, j'appelle ça une tente en poil de yak. Il doit y avoir un terme un petit peu plus technique. C'est simplement une tente qui est effectivement faite en poil de yak, donc en poil brun. Et t'as un trou au milieu parce qu'il y a aussi le foyer, donc la cuisine, etc. est faite au cœur de la tente. Du coup, t'as un trou pour laisser passer la fumée. Et c'est assez, pas précaire, mais assez modeste et très, très basique, en fait, puisque... Nous, quand j'y étais, moi personnellement, j'ai dormi sur des couvertures qui servaient normalement à recouvrir le cheval la journée sur lequel le cavalier avait posé sa selle. Et il y avait juste donc, le trou pour le foyer, ces couvertures-là, quelques ustensiles de cuisine. Et je me rappelle, ils nous ont fait à manger et ils nous ont fait des baguettes chinoises, donc des baguettes comme on les imagine, mais avec des branches d'arbres, parce qu'en fait, eux mangeaient avec les doigts. Et pour faire poli, ils nous ont fabriqué des baguettes avec des branches d'arbres. Ouais, je trouvais ça... fou. Et la petite anecdote qui était rigolote en fait par rapport à cette nuit là c'est que la famille en fait rentrer les bébés yaks pendant la nuit sous la tente, et c'est une manière très intelligente en fait de récupérer le cheptel, je sais pas comment ça s'appelle, le troupeau le lendemain matin, puisque les mamans yaks viennent récupérer leurs bébés yaks à la sortie de la tente en fait, et du coup tu passes la nuit avec les bébés yaks sous la tente. Et le lendemain matin, la maman yak, elle vient récupérer son bébé. Comme ça, toi, en tant que fermière, tu peux traire le lait de yak. Et puis, elle repart faire sa vie la journée. Et toi, le soir, tu as juste à récupérer les bébés yak perdus dans les magnifiques prairies à 4000 mètres d'altitude.
Et c'est mignon, un bébé yak ?
Franchement, je les ai regardés un peu du coin de l'œil. J'étais pas hyper à l'aise. C'était un peu surréaliste. Je les ai pas tripotés, à vrai dire. Mais par contre, les gros yaks, c'est pas mignon du tout parce que c'est haut et t'as juste pas envie qu'ils s'approchent de toi.
Je me rappelle en avoir vu un en Inde, du côté du Cachemire. Et la seule chose que je me rappelle vraiment, c'est qu'au début, je me suis dit, tiens, on dirait une grande vache de loin. Et plus tu t'approches, plus tu te dis, non, c'est quand même vraiment beaucoup plus grand qu'une vache. Hein.
C'est ça, c'est ça. Et ça a plus des airs de taureau méchant que d'une vache sympathique.
C'est clair. Est-ce que pour te venger, t'en as mangé ?
Eh bien oui, bien sûr, évidemment, puisque toute l'alimentation de ces nomades est basée autour du yak. Donc j'ai bu leur lait mélangé à du thé, ce que j'ai pas particulièrement aimé parce que le goût est très très fort. Et j'ai mangé des morceaux de yak séché qui pendaient au-dessus du foyer. Et j'étais pas très fan non plus, puisque c'était quand même vraiment 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 fort comme goût et puis un peu sec. Enfin, en même temps, c'est très pratique hein, parce que du coup, t'as tes morceaux de yak séché et tu peux tenir toute l'année avec ça, quoi. Mais pour mon petit palais un peu trop occidentalisé, ça passait pas très très bien. Mais bon, ça se laisse manger quand même.
Ouais, en tout cas, c'est une région qui m'a l'air vraiment très intéressante. Au niveau des gens aussi, je pense que ça doit être intéressant. Non, comment sont les gens? Parce que selon ce que tu nous as dit, ils sont quand même assez renfermés, ça se dit pas isolés, on va dire.
Ils sont pas enfermés, je dirais pas ça, coupés du monde, ça c'est certain, puisqu'ils vivent vraiment sur des vallées très très hauts, etc. Mais il y avait quand même une curiosité à notre égard, même si la communication n'était pas forcément faisable, il y avait des interactions avec les gamins, hein, les gens te souriaient, enfin, ils n'avaient pas forcément l'air plus surpris que ça, même si on était les deux seules blanches. Mais par contre, ils sont... je dirais coupés du monde, et du coup, ils évoluent dans une culture plutôt préservée. Alors bon, après, ça dépend de quel point de vue on le voit, parce que tu peux aussi te dire que c'est des gens qui doivent aller à la rivière pour chercher l'eau, et donc qui n'ont pas aussi accès au développement, tu vois. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a beaucoup de questions derrière. Mais en tout cas, c'est des modes de vie ancestraux et totalement préservés, et c'est vraiment le nomadisme pur. Enfin, c'est du nomadisme. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de voir, parce qu'il y a quand même un mouvement... enfin, il y a peu de nomades qui vivent encore comme il y a 50 ans, même. Il y en a de moins en moins, on dira. Et là, pour le coup, c'est un endroit où on peut les voir préservés et dans leur environnement, en fait. Et ça, c'est, je n'ai pas envie de dire que ça n'a pas de prix, mais en tout cas, c'est vraiment une expérience hors du commun.
Du coup, si j'ai envie d'aller le faire, bon, déjà, je pense qu'il y a des dates précises pour les festivals, mais combien il faut de temps? Parce que là, on est quand même dans des régions où il n'y a pas un bus tous les quarts d'heure, donc il faut quand même s'organiser un minimum.
Ouais, alors là, c'est plus compliqué, surtout sur ce festival-là précisément. Moi, j'y étais un peu par hasard, je ne savais pas qu'il y en avait un. C'était plus la géographie qui m'intéressait au départ, et justement ces grandes prairies d'herbes tendres en altitude. Alors, pour y accéder, il faut atterrir à Chengdu, qui est la capitale de la région. Ensuite, il doit falloir prendre au moins 10 heures de bus au minimum. Et ensuite, pour arriver là-bas, dans ce village de Tagong, je ne pense pas qu'il y ait de bus, nous on l'avait fait en taxi. Qu'on avait loué pour l'occasion, soit en taxi, soit en stop. Donc, il faut compter au minimum 2 jours pour y arriver, 2 jours pour repartir. Donc, si jamais tu pars sur un voyage comme ça à moyen terme, je pense qu'il faut compter au moins 8 jours en tout pour passer 3 ou 4 jours sur place. Et vu que c'est une région très élevée en altitude, le mieux, c'est quand même d'y aller en plein été, qui est la période où a lieu ces festivals. Parce qu'à mon avis, si tu y vas en hiver, les routes sont fermées, je ne suis même pas sûre que tu puisses accéder à Tagong, au village. Et en fait, il y a des villes qui sont un peu plus accessibles et qui ont des festivals reconnus internationalement. Donc, je ne sais pas exactement comment ils s'appellent, mais ça doit pouvoir se retrouver sur Internet. En fait, si tu tapes Festival du Cheval CAM, tu dois pouvoir trouver des choses peut-être un peu plus accessibles. Mais après, Tagong vaut le coup d'y aller en soi, pour son monastère, pour les environs et pour les balades que tu peux faire. Ça vaut vraiment le déplacement, quoi. C'est une région très sympa et très, très, comment dire, décalée par rapport au reste de la Chine. Enfin, moi, j'y ai passé qu'une semaine, en fait, ou 10 jours. Et j'en ai gardé un souvenir impérissable, hein, puisque tout ça s'est passé en 2006. Et c'est encore très, très frais dans ma tête, quoi.
Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les photos. Ça a vraiment l'air magnifique. Une autre chose que j'ai bien appréciée en photo, c'était le fleuve Li, où tu as fait une croisière.
Tout à fait. Alors là, pour le coup, on rentre dans des choses beaucoup plus faciles d'accès et beaucoup plus connues, mais qui sont aussi très, très sympathiques. En fait, le fleuve Li est très apprécié des Chinois, puisque ça fait aussi partie des paysages un peu ancestraux, avec la rivière, la montagne en plein sucre, encore une fois, et l'agriculteur avec son buffle, ou alors le pêcheur de cormoran avec son cormoran. Et c'est une croisière que tu peux faire entre Yangshuo et Guilin, donc qui sont deux villes dans le sud-est de la Chine, cette fois-là. Et c'est très sympathique, en fait, parce que les paysages sont vraiment jolis, enfin, t'as vraiment l'impression d'être, ouais, encore une fois, dans les estampes chinoises. Donc ça, c'est vraiment pour la rivière et les alentours. Tu peux te faire des balades en vélo très sympa, ou à pied, où, comme bon te semble, au milieu des rizières, c'est vraiment, vraiment une Chine très, très belle, beaucoup plus facile d'accès, donc plus touristique, avec des touristes européens et des touristes chinois, mais qui vaut vraiment le déplacement et qui est souvent intégré en fait, à un premier voyage, à une découverte de la Chine, parce que c'est des paysages exceptionnels qui peuvent rappeler peut-être ceux de la baie d'Along, où je n'ai pas été, mais j'ai vu des photos et j'imagine que c'est un peu le même genre de paysage, en fait, puisque c'est la même sous-région en fait, Asie du Sud-Est. Et c'est vraiment un endroit très, très apprécié des Chinois, beaucoup, beaucoup. C'est pour eux un de leurs fleurons touristiques et des Occidentaux qui y vont. Et c'est vrai qu'il y a une ville qui s'appelle Yangshuo, qui est donc à proximité du fleuve Li, où il y a tout un quartier de backpackers, de routards, ce qui est assez rare pour la Chine, hein, parce qu'il y a beaucoup moins le tourisme de routards comme on peut l'avoir en Asie du Sud-Est. Et donc là, à Yangshuo, il y a vraiment tout ce qui est auberge jeunesse, bar, resto, pour se sentir un peu dans une ambiance comme ça, routarde, où tu rencontreras d'autres voyageurs et où tu pourras faire peut-être une petite escale, souffler un peu en fait, dans un voyage en Chine. Pas de mal aussi, quoi. Donc ça peut être apprécié.
Une autre chose que j'avais bien aimée, alors c'est la montagne dont j'ai parlé avant, la montagne sacrée bouddhiste.
Le Wutaishan.
Voilà, exactement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les photos. Est-ce que ça vaut là vraiment la peine ou bien c'est juste les photos qui sont belles ?
Alors, pourtant, elle était plutôt marron, la montagne, quand j'y étais, c'est celle-là. Hein ?
Oui, exactement.
Ouais, t'es un peu pelé. Écoute, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. En fait, ça peut valoir la peine lors d'un premier voyage parce que c'est situé entre Pékin et... Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Et Pingyao. Pingyao, c'est une ville un peu musée, mais qui est un peu à l'image de Carcassonne en France. Tu vois, ce genre de ville un petit peu où tout a été conservé comme à l'époque. Et en fait, c'est une très belle ville, Pingyao, où des films en fait, historiques ont été tournés. Donc, tu as encore la Chine, comme tu l'imagines, d'antan, pour le coup. C'est vraiment que ça, le centre de la ville. Et donc, entre cette ville-là et Pékin, tu as le Wutaishan, qui est en effet une montagne sacrée. Je ne sais pas si je te la conseillerais, tu vois. Ça me surprend que tu m'en parles, parce que ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'y aller. Pour se balader, si c'est sur ton chemin, en fait, je dirais ça. Si c'est sur ton chemin, si tu fais justement la vallée du fleuve jaune, dans ces cas-là, tu peux t'arrêter, y passer 2 ou 3 jours. Ça vaut le coup pour l'ambiance un petit peu spirituelle qui s'en dégage, pour les balades que tu peux faire sur les montagnes alentour. Mais c'est peut-être pas le premier endroit que je recommanderais exceptionnellement, sauf si c'est sur ton passage.
Ouais, en fait, j'avais bien aimé les photos du monastère de Xiong Kong. Qui était dans le même, à peu près dans le même endroit, si j'ai compris.
Le monastère suspendu, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça s'inclut, en fait, dans un voyage. Bah, c'est le premier voyage que j'ai fait, enfin, le deuxième, et qui est assez sympathique, où tu suis plus ou moins le fleuve jaune. Et c'est un peu le berceau de la Chine historique. Et le monastère suspendu, en effet, ça vaut le détour, puisque c'est un monastère qui est suspendu, comme son nom l'indique, à une falaise. Et t'as parfois à peine ou même moins d'un mètre de large pour passer en fait, dans le monastère, pour aller d'un endroit à un autre. Et ça a été construit, je ne sais plus à combien de temps, mais il y a des centaines d'années également. Et c'est assez impressionnant, ouais. Et c'est vrai que c'est à proximité du Wutaishan. Et ça peut être sympathique, parce que c'est assez unique, en effet.
Est-ce qu'on a oublié des choses intéressantes à visiter, encore une fois, dans un voyage de 4 semaines des choses vraiment, toi, qui t'ont impressionné, tu te dis, si, même si tu y retournes, tu vas le revoir?
Alors, ça ne serait pas même si j'y retourne, je vais le revoir, mais c'est quand même vraiment à voir pour les personnes un petit peu curieuses et qui veulent voir une autre Chine que celle des grandes villes, en fait. Dans le sud-est de la Chine, il y a des villages de minorités ethniques. Donc, il faut revenir en fait sur les minorités ethniques. C'est-à-dire qu'en Chine, tu as les Chinois Han, donc ce sont les Chinois majoritaires, ceux qu'on voit dans les villes, etc. Et tu as 56 autres minorités reconnues par le gouvernement. Donc, c'est des gens qui ont des langues différentes, des coutumes différentes, des manières de s'habiller différentes. Et les minorités, vu qu'on est à l'échelle de la Chine, ça peut se compter en centaines de milliers d'habitants. Et donc, dans le sud de la Chine, dans la région du Guizhou, donc ça s'écrit G-U-I-Z-H-O-U, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villages avec des minorités qui ont gardé vraiment leur mode de vie et leur architecture et leur langue et leur manière d'être, tout simplement. Et les minorités de cette région-là, pour moi, c'est vraiment des choses à voir, puisque là aussi, les paysages sont magnifiques, avec encore des rizières en terrasse, avec des villages qui sont construits autour du bois, principalement. Donc, tu as des tours, des ponts qui sont construits sans un clou, mais juste par assemblage de bois. Et tu as des gens qui vivent encore avec leurs traditions, leur manière de vivre un petit peu ancestrale. Et c'est pareil, enfin, c'est pas du tout la Chine qu'on imagine au premier abord et qui vaut vraiment le coup, quoi. Et là, tu peux te faire un road trip peut-être de 5-6 jours, une semaine ou 8 jours et tu seras dans une Chine qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu peux imaginer ou ce que tu as pu imaginer avant. Et c'est très, très, très sympathique. Donc, je dirais que c'est le sud des minorités ethniques et ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment. Donc, voilà ce que je dirais. Et autrement, dans les choses qu'on aurait pu oublier, je dirais peut-être Hong Kong aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait quand même partie de la Chine. Et c'est une très chouette ville. Pareil, là, c'est plutôt la Chine très actuelle, qui vibre, où il y a beaucoup d'énergie, mais... C'est aussi une chouette ville à voir, en fait. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce dont je t'ai parlé juste avant. Mais j'étais assez marquée par Hong Kong, en fait. J'ai passé une semaine. Et ce qui est très chouette, c'est que les gens ont un côté plus occidentalisé, donc un peu moins choquant, parce que parfois, les Chinois peuvent paraître un peu bourrus, un peu impolis dans leur manière d'être, mais c'est surtout parce qu'on est culturellement différents. À Hong Kong, c'est un peu moins comme ça, puisqu'évidemment, ils ont été colonisés fort longtemps par les Anglais. Et en même temps, architecturalement, ça vaut le coup. Puis c'est aussi une ville où il y a de la nature, enfin une île, où il y a de la nature, et culturellement, qui est très très riche. Donc ouais, je dirais que ça vaut le coup aussi de faire un petit saut à Hong Kong. Et dans les choses dont on n'a pas parlé, mais qui valent aussi le détour, il y a la ville de Xi'an. Donc ça, c'est une ville dans l'ouest qui était le début, ou la fin d'ailleurs, enfin bref, une étape sur la route de la soie. Donc c'est le début du monde arabe en fait, puisque la Chine de l'ouest, c'est déjà la frontière avec le Turkménistan et tous les pays qui finissent en stan. C'est déjà le début du monde arabe. Et donc Xi'an, qui s'écrit X-I-A-N, qu'on prononce parfois Xi'an, c'est une très très chouette ville parce qu'il y a un superbe souk, marché couvert très oriental, parce que dans la rue, tu as les gens qui font les pâtes à la main en étirant des espèces de boules, comme chez nous, des boules pour faire de la pâte à pain, mais là-bas, ils en font de la pâte et qui te font des pâtes à la main devant toi, parce que tu as des gens qui promènent leurs oiseaux dans les cages et tu as les cages suspendues devant les boutiques et t'entends les oiseaux chanter, et parce qu'il y a des très beaux parcs. Donc vraiment, Xi'an, c'est une ville qui m'a beaucoup plu et qui est aussi très, très connue pour la fameuse armée terracotte, dont tu as peut-être entendu parler, parce qu'en 200 avant Jésus-Christ, il y a un empereur qui a eu la bonne idée de se faire enterrer avec une armée de milliers de soldats en terre cuite. Et cette armée a été redécouverte dans les années 70. Donc, on l'appelle parfois l'armée terracotte. Et donc, il y a un musée et il y a un site archéologique, en fait, à moitié découvert, où tu peux regarder ces soldats sur site et tu réalises, la démagogie, la folie, l'ampleur de l'empereur qui était le premier unificateur de l'empire chinois, donc en 200 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans. Et donc, pour ces deux raisons, donc pour cette armée et pour l'atmosphère orientale de la ville, Xi'an, ça fait partie de mes coups de cœur. Et pour le coup, quand tu me disais tu y reviendrais, c'est une ville où je suis revenue en fait exprès à plusieurs reprises. Donc, je la conseille aussi fortement, Xi'an, dans l'ouest de la Chine.
Ok, génial. Ben, ça nous fait quand même pas mal de matière. Hein. Je crois qu'on peut passer 6 mois pour tout visiter, tout ça.
C'est ça.
C'est cool. Alors, on avait parlé un petit peu des gens dans la partie... tibétaine, mais pas vraiment chinoise, comme ça on fâche personne. Comment sont les Chinois, en fait ? Comment est-ce qu'ils nous perçoivent quand on y va en tant que touriste ?
Alors, il y a deux questions. Comment ils nous perçoivent, c'est peut-être le plus facile, ils sont curieux. En fait, il y a quand même une naïveté, une spontanéité encore vis-à-vis des Chinois, des Occidentaux. Donc, si tu vas à Shanghai, dans le quartier d'expat, forcément, il y a peu de chances qu'on te regarde avec curiosité ou qu'on s'intéresse à toi, puisqu'il y a beaucoup d'Occidentaux dans certains quartiers de certaines grandes villes de Chine. Mais si tu sors un tout petit peu de ces centres urbains-là, et que tu te balades soit dans les périphéries, soit dans les petites villes, soit même dans les moyennes villes, bah, très facilement, tu vas avoir une personne qui va venir à côté de toi, qui va essayer de parler avec toi. Enfin, il y a vraiment une curiosité encore et une certaine bienveillance vis-à-vis des Occidentaux. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, en parlant chinois, ça facilite beaucoup, 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 puisque forcément, il y a peu d'Occidentaux qui vont là-bas, qui parlent chinois, et du coup, dès que tu ouvres la bouche en parlant un petit peu chinois, ne serait-ce que 3 mots, ils sont super contents, ils viennent vers toi, ils tchatchent, et c'est assez gratifiant. D'ailleurs, ça serait mon conseil, s'il y a des gens qui vont voyager en Chine, serait de prendre un petit guide de conversation franco-chinois, d'essayer de le potasser dans l'avion, et d'avoir au moins quelques phrases, je suis français, comment ça va, ou je suis suisse, ou ce que tu veux, enfin, et vraiment essayer d'avoir un petit peu de conversation, ça change vraiment la relation, et les gens sont super contents quand tu parles leur langue. Donc voilà, il y a quand même un rapport encore un petit peu privilégié avec les locaux, si je peux dire, qui sont pas du tout blasés vis-à-vis des Occidentaux. Donc ça, c'est comment est-ce qu'ils sont par rapport à nous. Après, comment sont les Chinois? Pour répondre à ta question initiale, ça, c'est une vaste question. J'ai pas encore percé le secret, le mystère. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est différents. Ça, c'est rien de le dire, mais c'est important de le garder en tête quand on voyage en Chine. Et les Chinois peuvent paraître rustres, bourrus, et même quand on est fatigué, ils peuvent paraître un peu bornés. Et voilà, ça, on peut avoir des a priori un peu bizarres, mais en fait, il y a tellement de différences culturelles que des fois, il y a des comportements qu'on a du mal à expliquer. Par exemple, dans la culture chinoise, on ne dit pas non, parce que quand tu dis non à quelqu'un, ça lui fait perdre la face. Et la notion de face en Chine, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important dans les relations sociales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu mettes ton interlocuteur mal à l'aise pour pas qu'il se trouve dans une situation où il ne saura pas comment réagir. Et si tu lui dis non, dans une négociation ou même dans une discussion basique, il va être mal à l'aise, il va perdre la face. Et du coup, des fois, tu poses des questions qui pour toi te paraissent hyper basiques à quelqu'un, et si on te dit oui, on te dit non, bah, tu réagis en fonction et tout va très bien. Et lui, vu qu'il ne voudra pas te dire non, il essaiera de te le transformer d'une autre manière. Et même si la personne parle anglais ou français ou quoi. Et du coup, la communication pourrait être assez biaisée. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qui a gardé en tête la notion de face qui est très, très importante en Chine. Ensuite, l'autre truc qui déroute pas mal les gens, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes canons de politesse, si je peux dire, entre la Chine et l'Occident. C'est-à-dire que, en gros, en Chine, il y a eu la révolution culturelle avec Mao dans les années 60. Donc Mao est arrivé en Chine et a décidé que tout ce qui rappelait le passé, c'était pas bien et qu'il fallait l'abolir. Donc il y a eu tout ce qu'on a plus ou moins en tête avec la destruction du patrimoine historique, le meurtre de plusieurs intellectuels, enfin de centaines d'intellectuels, etc. etc. Et le fait que les valeurs qui rappelaient trop la bourgeoisie étaient à vraiment fichées par terre. Et du coup, pour les Chinois, cracher en pleine rue, bousculer quelqu'un qui fait la queue ou lui passer devant, tout simplement, bah, c'est pas particulièrement impoli, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu cette même sensibilisation à la politesse qu'on l'a eu nous. Même si ça vient parfois, il y a vraiment un côté... la politesse n'est pas du tout placée au même endroit. Donc, pour eux, de dire non, c'est la chose impossible et très impolie, etc. Mais par contre, de cracher au nez de quelqu'un, bah, c'est pas forcément grave. Donc, ça peut choquer certains voyageurs et c'est bien de l'avoir en tête avant de partir pour pas le prendre personnellement ou pour pas trop s'en inquiéter. Et après, comment sont les Chinois dans les choses plus positives quand même? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté très, très énergique chez les Chinois. Je t'en ai un petit peu parlé quand je parlais de Shanghai. Mais il y a vraiment un côté prendre sa vie en main, aller de l'avant. Bon, ils n'ont pas forcément le choix parce qu'ils sont pas toujours dans la société très facile. Mais pour moi, c'est vraiment très, très positif et très énergique. C'est vraiment l'idée que j'ai en tête, en fait. Donc ça, c'est chouette.
Je ne sais pas si tu connais le blog qui s'appelle Rayon Cantonné.
Oui, alors je le connais un petit peu, mais pas trop, trop en détail.
Ouais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blog qui est pas mal axé quand même sur le phénomène start-up ou travailler dans un environnement chinois. Et justement, ils ont pas mal d'exemples d'incompréhension ou de choses qui sont étonnantes. Et je pense qu'en tant que voyageur, et encore plus si on va travailler, ça peut être très utile de se renseigner comment d'autres s'en sont sortis. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant, parce que comme tu dis, il y a plein de choses qui pour nous sont choquantes et qui ne le sont pas là-bas, et il y a une façon de parler aussi. D'ailleurs, à propos de façon de parler, est-ce que quand même, en sachant l'anglais, on peut se débrouiller en Chine ou pas du tout?
Dans les très grandes villes, oui. Donc en gros, Pékin, Shanghai, Canton, ça ira. Mais si tu sors, ce sera pas suffisant en fait, vraiment. C'est-à-dire que à ton hôtel, ils te comprendront un petit peu, mais dans la rue ou quoi, peut-être il y aura quelques étudiants, mais pas beaucoup. Donc vraiment, moi le conseil que j'ai, mais c'est ce que je te disais, le petit guide de conversation, ne serait-ce que pouvoir demander les toilettes, combien ça coûte, etc. Pas parler chinois en 3 jours, quoi, ce sera pas possible, mais avoir un petit vocabulaire de base ou au moins pouvoir montrer et pointer du doigt ce que tu recherches. Bon, après, si vraiment tu cherches une expérience plus intéressante, tu prends un guide francophone ou anglophone, et dans ces cas-là, le problème est résolu.
Est-ce que, sans parler forcément de sujets qui peuvent énerver, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne demande pas en Chine? Parce qu'il y a quand même, c'est quand même la censure, la Chine, hein, c'est pas vraiment la démocratie totale, on va dire.
Alors, il y a des choses qui se demandent, par exemple le salaire, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et en effet, moi, je déconseillerais de parler politique, de parler justement des questions du Tibet ou de Taïwan à quelqu'un que tu connais peu, en fait. Parce que ça reviendrait à poser des questions très intimes, enfin, ou très déplacée à un occidental. Donc c'est vraiment les questions que j'éviterai. Mais autrement, au-delà de ça, ils sont plutôt à tendance curieuse, ils te poseront pas mal de questions sur ta vie, ton travail, si t'es marié, etc. Et donc il n'y a pas de tabou à avoir. Au-delà des questions politiques, et en effet, c'est une question très sérieuse, quoi, la liberté d'expression en Chine, la liberté de la presse notamment. Donc c'est pas la peine de la prendre à la légère juste pour titiller la personne, quoi.
À titre personnel, tu n'avais pas ton blog ou tu l'avais déjà quand tu as été là-bas ?
Alors, moi je l'avais déjà. À l'époque, il s'appelait Vue de Chine. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée en Chine, parce que d'abord j'ai voyagé, ensuite je m'y suis installée en juin 2009. Et c'était les 20 ans des événements de Tiananmen. Et en fait, mon blog était hébergé sur WordPress, il l'est toujours d'ailleurs. Et 10 jours après mon arrivée en Chine, tout WordPress a été bloqué en Chine. Et du coup, j'avais plus accès à mon blog et j'ai dû faire des pieds et des mains pour trouver un VPN, donc un petit truc pour pouvoir passer la muraille Internet, la muraille de Chine en fait, la censure chinoise. Donc j'étais confrontée à la censure un petit peu comme ça, mais de manière générale. Mais par contre, les médias francophones sont beaucoup moins embêtés que les médias anglophones. C'est-à-dire que si j'avais été un blog à succès en anglais, j'aurais pu m'inquiéter que mon blog particulièrement soit censuré. Mais en parlant en français, en fait, les censeurs sont moins regardants. Je pense qu'il y a moins de personnes en fait, qui regardent les choses en français. Ce qui est vraiment très, très contrôlé, c'est tout ce qui est en chinois, bien sûr, et en anglais. Et pour te donner une idée, si on parle de ça, Facebook et Twitter sont fermés en Chine, en fait. Tu ne peux pas y avoir accès. Donc c'est, puisque c'est des domaines d'expression trop libres.
Trop libres.
Ouais, ouais. Et du coup, il n'y a pas accès. Mais après, par rapport à cette question de la liberté d'expression et de l'échange, moi je sais que j'ai eu des superbes expériences humaines en fait, parce que je travaillais donc en Chine, j'ai travaillé pendant 2 ans et pendant 1 an et demi j'étais dans un petit bureau d'achat où on était pas très nombreux, on était moitié français, moitié chinois. Et en fait, tous les jours, à la pause déjeuner, je causais avec mes collègues, etc. On se posait des questions sur nos vies respectives, etc. Et j'ai eu des super beaux échanges avec ces collègues-là, où je leur ai juste, par la discussion et par les conversations qu'on pouvait avoir, je leur ai montré qu'on pouvait penser en fait différemment de juste il faut avoir un travail, acheter un appartement, avoir des enfants et payer ses factures, quoi. Juste, on peut décider de partir voyager juste pour le plaisir de voyager, de rencontrer des gens, d'écrire ce qu'on aime, etc. Et quand j'ai quitté la Chine, que j'ai quitté ces personnes-là, elles m'ont dit que vraiment, je leur avais appris en fait une manière différente de penser, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est possible en fait en Chine par la discussion avec les gens, et c'est génial en fait. C'est vraiment des belles expériences, et les Chinois sont malgré eux victimes d'un système répressif. Mais ils ne sont pas bêtes, quoi. Donc, si tu discutes avec eux, il y a des échanges qui sont possibles et tu peux ouvrir de belles portes et pourquoi pas semer de belles graines, quoi. C'est chouette.
Eh oui, la révolution dans 2 ans en Chine, c'est à cause d'Aurélie. Vous vous en souviendrez. Elle est passée sur VoyageCast.
peut-être. Non, je ne leur souhaite pas non plus parce que ça aurait des conséquences pas très sympathiques. Mais en tout cas, il y a des beaux échanges qui peuvent avoir lieu, ça c'est certain.
Alors, après la compagnie, on va gentiment aller vers la fin de l'émission, mais il y a encore une question. Moi, j'adore manger, boire aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange et on boit en Chine? Alors, on a déjà parlé du yak, visiblement, ça t'a pas énormément plu, mais je pense que t'as mangé d'autres trucs sympas quand même.
Alors, on mange du riz, dans le sud principalement, et on mange des choses à base de blé, donc pâtes, etc., et galettes dans le nord. Et en fait, qu'est-ce qu'on mange? On mange de tout, tout. Il y a un proverbe en chinois qui dit que tout ce qui a 4 pattes se mange sauf des tables et des tabourets, quelque chose comme ça. Donc en fait, ils mangent vraiment de tout et c'est toujours préparé, bien découpé en morceaux avant que ça arrive sur la table. Ça arrive en fait en général sur un plateau disposé au centre de la table et les convives se servent dans les plats qui tournent au milieu et ça peut être très pimenté selon les régions, aigre, doux, sucré. Enfin, de la même manière qu'il y a plein de paysages différents, il y a plein de cuisines différentes. Enfin, je pense qu'on peut parler de cuisine chinoise au pluriel et qu'il doit y en avoir au minimum des dizaines de différentes. Dans les choses un peu originales, j'ai peut-être mangé du chien, mais je ne le sais pas, puisque dans le sud de la Chine, ils mangent du chien, en fait, et je pense que c'est possible que j'en ai mangé sans trop m'en rendre compte si des amis m'ont invité à manger là-bas. Mais malheureusement, j'en ai vu un se faire peler devant moi, et c'est quand même pas hyper appétissant, et c'est pas génial de le retrouver sur le marché, quoi. Donc ça, c'est dans le truc un peu moyen. Mais après, il y a des très très bonnes choses, principalement salées. Ils sont un peu moins dessert, mais il y a vraiment des bons petits plats. Et dans ce qui se boit, il y a principalement le thé. Bon, il y a aussi l'alcool de riz qui est un petit peu fort et que certains ont connu les méfaits après des soirées au restaurant.
Pas de nom, pas de nom.
Pas de nom, voilà. Mais moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est le thé. En fait, je suis une grande amatrice de thé, particulièrement de thé chinois, puisque le thé vient de Chine, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui se boit toute la journée. Tout le monde a son petit thermos avec ses feuilles de thé qui trempent dedans. Et ce n'est pas toujours du thé de qualité qui est consommé, mais il y a aussi du thé de grande qualité. Et j'aime beaucoup, en fait, le boire. Et j'en bois actuellement. D'ailleurs, j'en ai dans ma tasse, là, pendant que je te parle. Et il y a vraiment plein de sortes de thé très, très bons. Très, très bons. De la même manière qu'on a peut-être 1020 au minimum en France, il y a autant de thé en Chine. Donc, c'est un autre voyage que je vous invite à faire si vous partez en Chine, c'est à goûter du thé sur place.
Ok, il y a des régions pour ça qui sont meilleures ?
Ouais, tout à fait. Il y a la région avec les Toulots, là, dont je vous parlais au début de l'émission, les maisons rondes, en fait, dans le Fujian. Donc, c'est entre Shanghai et Canton, au niveau de Taïwan, en fait. Cette région-là est très, très reconnue pour le thé. Après, il y a plusieurs terroirs, de la manière qu'il y a plusieurs régions en France pour le vin, mais cette région-là, donc le sud-est de la Chine, est particulièrement réputée pour son thé.
Ok, excellent. Ben, merci pour toutes ces informations. C'était vraiment très, très sympa. Alors, pour parler quand même, toi, tu as été 2 ans en Chine. Tu as un blog aussi qui est quand même... j'ai vu quelques blogs sur la Chine, mais toi, tu y as quand même vécu très longtemps et tu as visité beaucoup de choses. Tu veux nous parler un peu de ton blog ?
Avec plaisir ! Alors, c'est www.curieusevoyageuse.com. Et en effet, c'est un blog que j'ai tenu depuis que j'ai commencé à vivre en Chine. Donc, c'était en juin 2009. Et en fait, j'ai un petit peu triché parce que quand j'ai commencé mon blog, j'ai repris mes anciens récits de voyage qui étaient des emails que j'avais écrits à mes amis. Et du coup, sur ce blog, il y a mes premiers récits qui remontent à avril 2005 jusqu'à mes derniers récits en Chine, puisque j'y ai vécu donc 2 ans jusqu'en avril 2011 et je suis repartie cet été. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur la Chine, des voyages, des récits de vie quotidienne. Et il y a aussi un truc sympa que j'ai fait quand je vivais là-bas, que j'ai bien aimé, du moins, qui était aussi assez apprécié. C'est que j'ai fait des portraits de Chinois. Donc, en fait, les Chinois que je rencontrais qui avaient l'air sympas, ou ceux que je ne rencontrais pas, mais que j'avais envie de rencontrer, je leur proposais de faire une interview où on discutait, comme on est en train de le faire maintenant. Sauf qu'après, je retranscrivais par écrit et je le mettais sur mon blog. Donc, je faisais des interviews en chinois. En plus, c'était une bonne manière de m'exercer. Et je racontais un petit peu la vie de ces personnes-là. C'était une manière... pour moi, de connaître un petit peu leur parcours et pour mes lecteurs de se rendre compte que derrière le 1,5 milliard de Chinois, y a des individualités, des parcours, des récits de vie. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai fait sur mon blog. Et si on continue dans l'autopromo, à mon retour de Chine, j'ai quand même décidé de continuer à écrire, même si je vivais en France. Et là, je raconte plus mes récits de voyage en Europe ou même en France, en me disant, on peut garder un œil voyageur dans son propre pays. Et voilà, donc je continue à raconter un petit peu tout ce que je vois et tout ce que je vis sur ce blog curieusevoyageuse.com.
Alors, j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup tes interviews en fait. Parce que justement, c'est intéressant d'avoir des gens comme ça, des inconnus pour nous. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une idée superbe, quoi.
Ah, merci. Merci, merci. Sympa.
Ah ouais, non, c'est sincère en plus. Dernier petit coup d'autopromo, parce que pourquoi pas, tu as écrit un livre aussi, La Chine à fleur de peau.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est la suite du blog, puisqu'à mon retour en France, un éditeur m'a contacté pour faire un livre à partir des récits de mon blog. Du coup, j'ai simplement repris toute mon expérience sur la Chine entre avril 2005, donc le tout premier voyage, et avril 2011, donc le dernier. C'est 6 ans de voyage en Chine. Et je les ai un petit peu remises en forme, amélioré l'écriture, etc., sélectionné les plus belles photos que je pouvais avoir. Et en effet, en est sorti ce livre. Et à la fin, j'ai rajouté tous les portraits justement que j'avais fait de Chinois, que j'ai bien repris et bien remis en forme, puisque c'était pour moi aussi quelque chose de très intéressant. Et ce qui est intéressant, je pense, avec ce livre, La Chine à fleur de peau, c'est que c'est vraiment le regard que peut avoir une occidentale sur un pays et comment le regard évolue aussi sur la durée, puisque 6 ans de regard sur la Chine, ça commence à faire. Et c'était ça que je voulais partager, en fait, avec les curieux qui ouvriront le livre.
Ok, super. Disponible sur Internet, Amazon, etc., je pense. Hein.
Exactement, exactement.
Ok, super. De toute façon, ce sera en lien dans les notes de l'émission. En tout cas, c'était vraiment très sympa de te recevoir, Aurélie. C'était vraiment génial. En tout cas, j'ai appris plein de choses sur la Chine. On a fait pas mal de temps, mais je crois que c'était nécessaire. Et c'est un grand pays, comme tu as dit, on n'a pas encore tout dit, mais on pourra toujours une fois reparler de la Chine. En tout cas, c'était génial. Un dernier mot pour l'humanité.
Xiexie Niman.
J'ai rien compris, mais ça a l'air génial.
Merci à vous et à bientôt.
Ok, super. Allez, ciao.
À bientôt.
Tenzin, qu'est-ce qui se passe là?
Les verts,
S'il vous plaît, il ne faut plus faire de mal aux vers, s'il vous plaît.
Les vers.
Dans une vie passée, cet innocent ver de terre était peut-être votre mère. Pitié, il ne faut plus faire de mal, s'il vous plaît. Plus de mal, plus de mal.
Mais si, les Tibétains pensent que toute créature dans une vie passée a pu être leur ancêtre ou leur mère. Nous devons les respecter et les remercier de leur gentillesse. Ne jamais faire de mal à une créature vivante. C'est une croyance ici. Tu ne peux pas demander à ces gens pieux de la négliger.
Oui, mais votre sainteté... Avec tout mon respect, je crois qu'on ne pourra jamais... Excusez-moi, mais on ne pourra pas sauver tous les vers, pas si vous voulez qu'on finisse dans cette ville, la salle de cinéma. C'est...
Tu es intelligent. Trouve une solution.
Encore merci à Aurélie, la curieuse voyageuse, d'avoir répondu à mon interview, c'était vraiment génial. N'oubliez pas de faire un saut sur le site voyagecast.ch pour me dire ce que vous avez pensé de l'émission et profiter des nombreux liens qui accompagnent l'article qui sont avec l'émission. Au niveau des films de Voyagecast, il y avait bien entendu les Gremlins 1 et 2, dont je me suis servi pour faire la voix de Gizmo. D'ailleurs, Gizmo t'aime ces films, non ? Un peu taré ce Gizmo, hein. Je me demande si c'est le même qu'avant. Enfin, bon bref, on s'en fiche. En deuxième film, il y avait Karate Kid, la version de 2010 avec Jackie Chan et le fils de Will Smith. Un film assez sympa quand même, avec des belles vues sur la Chine et notamment certains temples. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un de ceux dont on a parlé dans l'épisode. Le troisième extrait vient du film 7 ans au Tibet, un film absolument magnifique avec Brad Pitt, avec des montagnes magnifiques de l'Himalaya. C'est un très beau film et voilà, malheureusement il a rapport avec la Chine et pas forcément de son point de vue le plus glorieux, mais c'est vraiment un film magnifique à regarder. Pour le reste, eh bien merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de partager Voyagecast là où vous le pouvez, et puis on se donne rendez-vous pour dans deux semaines avec un épisode assez spécial avec Bernard Pichon qui était déjà nous venu parler de son métier reporter voyageur, qui va cette fois-ci nous raconter trois histoires vraiment sympas sur les voyages qu'il a fait. Alors on se dit à la prochaine, et avec Gizmo, on va se manger un truc, qu'est-ce que t'en penses ? Ah mais il mange vraiment n'importe comment ce Gizmo, c'est... Bon je vous laisse, il est déjà 10:00, alors à la prochaine.
Voilà, c'est mon histoire. Alors si votre climatiseur se détraque, si votre machine à laver tombe en panne ou si votre magnétoscope ne marche plus, avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison.